Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. C'est Jean-Noël qui est au micro avec vous pendant une heure. Nous allons feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique de ce 8 avril. Un 8 avril 2014, c'était l'annonce de la découverte d'un océan d'eau liquide sous la surface gelée d'Encélade. C'est l'une des lunes de Saturne. Ce qui est intéressant dans cette information, c'était donc en 2014, c'est qu'on découvrait de l'eau sous forme liquide sur ce satellite de Saturne. Et qui dit eau, pour certains, ça dit possibilité peut-être d'avoir une vie. Alors bon, Saturne, c'est pas non plus un environnement très propice, mais en tout cas, c'était intéressant de le savoir. 6 avril 1851, c'est la naissance de Guillaume Bigourdan, astronome de l'Observatoire de Paris. Il était président de l'Académie des sciences. En fait, il est connu pour sa méthode de mise en station des télescopes, encore utilisée par de nombreux astronomes amateurs. Son œuvre principale, c'est l'étude des nébuleuses, qui lui vaut d'être distingué de la médaille d'or de la Société Royale d'Astronomie de Londres en 1919. Il contribue aussi plusieurs fois à l'histoire de l'astronomie. Guillaume Bigourdan est donc né un 6 avril 1851. Il est décédé en 1932. Décès le 6 avril 1829 de Niels Henrik Abel. Ah, Abel, ça nous dit quelque chose. Abel, c'est un mathématicien norvégien. Il est connu pour ses travaux en analyse mathématique sur, je cite, la semi-convergence des séries numériques, des suites et des séries de fonctions. Oui, ça ne nous dit pas grand-chose. Les critères de convergence d'intégrales généralisées. Oui, intégrale, ça nous dit vaguement quelque chose pour ceux qui ont fait des maths. La notion aussi d'intégrale elliptique. Oh là là, ça c'est un petit peu plus compliqué. Et en algèbre, il est également quelqu'un connu pour ses travaux sur la résolution des équations. Oui, là, ok, ça nous dit un petit peu plus quelque chose. Niels Henrik Abel est donc décédé le 6 avril 1829. Pourquoi ça nous dit quelque chose? Parce que Abel, eh bien, on a donné son nom à un prestigieux prix de mathématiques, le prix Abel, justement. Et on en a parlé dans cette émission il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, parce qu'il y a eu un Français qui a remporté ce prestigieux prix Abel de mathématiques, le Français Michel Talagrand. On en a parlé, oui, dans l'émission il y a 15 jours, et il a reçu, voilà, ce prix Abel. Et donc, c'est en hommage à ce mathématicien norvégien, Niels Henrik Abel. Il est mort jeune, hein, il est mort à l'âge de 27 ans, le 6 avril 1829. Voilà, au niveau de l'éphéméride. Alors, l'actualité scientifique, ça sera dans la semaine, c'est le 8 avril prochain, l'éclipse solaire totale qui aura lieu donc le 8 avril prochain, le dernier alignement de la Lune avec la Terre et le Soleil visible depuis le continent américain, c'était l'année dernière. L'éclipse n'était pas totale parce que la Lune, elle était située sur un point de son orbite proche de la Terre, mais elle paraissait légèrement plus petite que le disque solaire. Donc du coup, on cachait le soleil de façon partielle. Les observateurs du ciel ont pu alors admirer la formation d'un anneau de feu autour du disque de la Lune. On parle d'éclipse annulaire et une baisse de luminosité du soleil qui atteint parfois par endroits jusqu'à 10% de sa luminosité habituelle au pic de l'éclipse. Alors là, il y a une éclipse solaire. Lundi 8 avril, qui va plonger, quant à elle, certaines régions dans une nuit totale. Durant plusieurs minutes, cette fois-ci, la Lune sera légèrement plus éloignée de la Terre et le disque lunaire pourra ainsi totalement éclipser le disque solaire. Et donc là, on est sur une éclipse solaire totale. Alors, si le phénomène sera sans aucun doute sensationnel, il ne sera aisément observable que depuis le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, si vous êtes dans le coin, c'est très bien. Sinon, ça va être plus compliqué. La bande de totalité de l'éclipse relativement étroite va s'étirer dans une direction nord-est de la côte pacifique du Mexique vers la côte atlantique du sud du Canada. Alors ça va traverser plusieurs villes, notamment au niveau du Mexique, on aura Mazatlán et Torreón. Il y aura Dallas également qui va connaître ça, et puis Montréal également au Canada. Dans les régions qui vont border la bande de totalité de l'éclipse, eh bien le disque solaire ne sera que partiellement caché par la Lune. La baisse de luminosité sera alors de moins en moins intense au fur et à mesure qu'on va s'éloigner bien sûr de cette zone propice. La ville de Seattle au nord-ouest des États-Unis va subir par exemple une perte de luminosité que d'environ un quart. La NASA a mis à disposition une carte interactive qui permet d'estimer l'intensité de l'éclipse depuis un point d'observation donné. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez vous renseigner auprès de ce site de la NASA pour en savoir un petit peu plus. Alors les observateurs situés près de la côte pacifique du Mexique pourront commencer à observer l'éclipse à 11h07 heure locale. Tandis que les observateurs situés sur la côte atlantique du Canada pourront observer la sortie de l'éclipse du continent américain à 17h16 heure locale. Donc ça va se passer à peu près pendant une heure et demie pour la traversée. Attention toutefois, même si la Lune va cacher brièvement la totalité du disque solaire, eh bien la sécurité reste de mise bien évidemment, y compris pendant la brève phase totale de l'éclipse. Lorsque la Lune bloque complètement la lumière du Soleil, il n'est pas conseillé de regarder directement le Soleil sans protection, bien sûr, protection spécialisée. Le fait de regarder n'importe quelle partie du soleil à travers un objectif de caméra, des jumelles, un télescope sans filtre solaire, ça peut causer de graves blessures au niveau des yeux. Lors des phases partielles de l'éclipse, c'est-à-dire que quand ça va se passer avant ou après l'éclipse totale, il est nécessaire de regarder le phénomène à travers des lunettes solaires homologuées. L'éclipse va être retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la NASA. Donc si vous restez en France. Lundi, vous pouvez suivre ça au niveau de la NASA. Si l'éclipse totale fournira un magnifique spectacle aux amoureux du ciel, eh bien le scientifique ne compte pas se contenter d'une observation uniquement esthétique. L'éclipse, en fait, ça leur permet notamment de mener des études sur le Soleil, sur la Terre, sur leurs interactions. Et la NASA prévoit plusieurs missions à cet effet. Parmi les nombreux projets, eh bien, la NASA souhaite capturer des images de l'éclipse depuis la haute atmosphère, c'est-à-dire à environ 15 km d'altitude, à l'aide de son observatoire aérien. Les observations qui vont être capturées en lumière infrarouge et en lumière visible à haute résolution et à grande vitesse, ça pourrait notamment aider à étudier un anneau de poussière autour du Soleil et également à rechercher des astéroïdes qui pourraient être en orbite autour du Soleil. L'observatoire aérien sera également équipé de spectromètres. L'idée, c'est de pouvoir étudier les origines du vent solaire. Il y a également un réseau de radars constitué d'une multitude de radars à travers le monde qui vont étudier les effets des radiations solaires sur les couches supérieures de l'atmosphère de la Terre. Notamment l'ionosphère, hein, c'est une couche qui est majoritairement régie par les rayonnements solaires. Et l'éclipse totale qui va bloquer brièvement toute lumière du Soleil, eh bien, ça fournit une occasion un peu unique pour pouvoir étudier les impacts de ces changements brusques sur le comportement de l'atmosphère. Et donc cette fameuse ionosphère sera également étudiée in situ grâce au lancement de 3 fusées dans le cadre d'une mission spécifique qui va être menée. Et puis enfin, il y a pas mal d'événements citoyens d'observation qui sont prévus durant l'éclipse et qui vont fournir de magnifiques images aux curieux qui n'auront pas eu l'occasion d'observer le phénomène en direct. On se souvient de l'année 1999 en France où il y avait une éclipse totale du Soleil, et du coup on se souvient un petit peu de cet engouement. C'est vrai que c'est un événement assez intéressant et assez émouvant pour ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir assister à cette éclipse. Donc là, rendez-vous lundi au niveau du continent américain si vous le souhaitez. Au niveau cinéma, tiens, on ne parle pas souvent de cinéma, et j'ai trouvé cet article de Futura assez intéressante qui explique est-ce que l'on peut vraiment recycler l'urine et la sueur en eau potable comme dans le film Dune. Alors, je n'ai pas vu ce film Dune, il faut que j'aille le voir à tout prix, mais du coup, on se pose cette question. Le film est sorti il y a déjà maintenant, peut-être pas loin d'un mois, je crois, et on continue d'y explorer un petit peu la richesse de l'univers développé par Franz Herbert, qui a imaginé le concept de distille, c'est-à-dire un système destiné à recycler jusqu'aux eaux usées sécrétées par le corps humain, et que la NASA a concrétisé à sa façon. Dans le désert, sur la planète Arrakis, que préfèrent nommer Dune, eh bien, les Fremen luttent pour leur survie, ça c'est dans le film, et le sable, la chaleur et les vers géants rythment une vie rude où l'eau est le plus précieux des trésors, devant même l'épice que s'arrachent les autres planètes. Et pour survivre, le peuple dépend du distille, une combinaison qui recueille chaque goutte de fluide corporel et permet de ne pas perdre plus d'un dé à coudre d'eau par jour, quand un humain en perd environ 2,6 quotidiennement dans une zone tempérée. De même que le communicateur de Star Trek avait inspiré la création du téléphone portable, eh bien, Frank Herbert a-t-il, quant à lui, devancé la science avec sa création ? La NASA nous a prouvé que oui, en fait, en annonçant l'année dernière avoir amélioré son système de contrôle de l'environnement et de maintien de la vie de la station spatiale, de façon à ce qu'il puisse recycler en eau potable près de 98% des fluides corporels de ces astronautes. L'exploit est possible grâce à un dispositif testé avec succès sur la Station Spatiale Internationale et qui permet de recycler la saumure d'urine. C'est une solution concentrée obtenue après le traitement de l'urine. Et chez les humains, celle-ci est principalement composée d'eau, d'urée, de créatinine, d'ammoniac et de divers sels qui sont dissous. Et lorsqu'elle est traitée pour récupérer l'eau, eh bien, les composés solubles dans l'eau sont extraits, ce qui laisse derrière une solution plus concentrée, ce qu'on appelle donc saumure. Et ce dispositif intervient pour transformer cette saumure en eau potable en évaporant l'eau de la solution à travers une membrane conçue pour permettre le passage de l'eau et qui va retenir tous les autres composants de cette saumure. Et cette vapeur d'eau, elle est ensuite refroidie pour être recondensée. C'est un petit peu comme le principe de l'eau de mer que l'on va dessaler. Le traitement est fondamentalement similaire à celui de certains systèmes terrestres de distribution d'eau, mais il est effectué en microgravité. C'est ce que détaille l'un des responsables de la NASA qui gère justement tout ce dispositif dans un communiqué. L'équipage ne boit pas de l'urine, mais de l'eau récupérée, filtrée et nettoyée, de manière à ce qu'elle soit plus propre que celle que nous buvons sur Terre. Nous avons mis en place de nombreux processus et effectué de nombreux tests au sol pour nous assurer que nous produisons de l'eau propre et potable. Alors les eaux usées générées par l'équipage, donc ça va être l'urine et la sueur, tout ça est récupéré, c'est acheminé vers une unité qui permet de purifier l'eau et une partie du système est spécifiquement dédiée au traitement de l'urine, c'est ce fameux dispositif BPA qui utilise la distillation sous vide pour récupérer l'eau de l'urine et la purifier. La saumure d'urine restante est ensuite acheminée vers ce dispositif. L'eau récupérée passe par une série de filtres spécialisés et un réacteur catalytique. L'idée, c'est d'éliminer toutes les traces de contaminants qui restent. Des capteurs vérifient la pureté de l'eau. Et si c'est nécessaire, elle peut être traitée une nouvelle fois si on considère que ce n'est pas totalement optimal. Avant d'être stockée, l'eau purifiée est enrichie en iode afin de prévenir la croissance des microbes. Et une fois propre et potable, elle est stockée, elle est prête à être utilisée par l'équipage pour la consommation, la préparation des aliments, l'hygiène et ainsi de suite. Une prouesse technologique qui n'a pas vocation à survivre à la chaleur du désert, mais qui est devenue indispensable à l'exploration spatiale. Moins il y a d'eau et d'oxygène à embarquer, plus il y a de données scientifiques à ajouter au véhicule de lancement. Grâce à des systèmes de régénération fiables et robustes, l'équipage n'a pas à s'en préoccuper et peut se concentrer sur l'objectif réel de sa mission. C'est ce qu'explique Jill Williamson, qui est donc le responsable de ce dispositif au sein de la NASA. Donc il y a bien la possibilité de pouvoir recycler l'urine et la sueur en eau potable, comme dans le film Dune. Comme quoi, la science-fiction, c'est de la science et c'est de la fiction. C'est un petit peu de tout. Vous écoutez Biotine, c'est de la science et c'est aussi de la musique. À tout de suite. I'm Snowblind, c'était Asger sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h, l'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Pas mal d'actualités un petit peu de toutes sortes dans cette émission. Aujourd'hui, on va partir au Brésil, où la crise de la dengue au Brésil a atteint des proportions alarmantes, avec plus d'un million de cas signalés en seulement 2 mois, ce qui marque une augmentation de 226% par rapport à 2023. Et face à cette situation, les autorités brésiliennes ont décidé de soigner le mal par le mal en relâchant dans la nature des moustiques génétiquement modifiés pour réduire la transmission du virus. Ces moustiques mâles porteurs d'un gène mortel pour leur descendance femelle sont conçus pour diminuer la population de moustiques vecteurs de la maladie. C'est le moustique Aedes aegypti. Cette stratégie qui a déjà été testée aux États-Unis vise à réduire jusqu'à 90% la population de moustiques dans les zones traitées. La dengue, qui est endémique au Brésil, représente une menace d'importance puisque près de la moitié de la population mondiale vit dans des zones à risque. Les symptômes de la maladie, qui va de la fièvre aux maux de tête et aux nausées, ces symptômes peuvent évoluer vers des formes graves qui nécessitent une hospitalisation. Le virus se propage par les piqûres de moustiques femelles infectées et qui sont très présentes dans les zones urbaines. Alors, bien que cette approche inédite ait montré des résultats prometteurs, il y a certains scientifiques qui restent préoccupés par le potentiel impact sur l'écosystème. Ils craignent que les moustiques génétiquement modifiés puissent survivre et se reproduire dans la nature, ce qui va créer une population encore plus robuste. En outre, la modification de la population de moustiques pourrait avoir des répercussions sur la chaîne alimentaire, en particulier si d'autres organismes dépendent des moustiques comme source alimentaire. Risque environnemental à part, il n'y a aucune preuve qui n'indique actuellement de danger pour l'être humain. Mais voilà, le Brésil relâche donc des moustiques OGM porteurs d'un gène mortel dans la nature pour combattre cette explosion de cas de dingue. Autre chose, on parle de vagues de chaleur, mais aussi un pays qui subit des vagues de froid de plus en plus intenses. Et c'est une région du monde qui fait très très rarement la une de l'actualité, c'est la Mongolie, qui vient de subir un hiver extrême, non pas en termes de chaleur comme beaucoup d'autres pays du monde, notamment en France, mais en termes de froid. Environ 90% de la Mongolie a connu des conditions de froid et de neige exceptionnelles cet hiver. Plus de 2 millions de têtes de bétail sont mortes de froid ces derniers mois. Pardon. Il s'agit de ce qu'on appelle le dzud. C'est un terme qui désigne un temps à la fois glacial et anormalement neigeux qui mène à une mortalité de masse chez les animaux, parfois aussi chez les êtres humains. Le phénomène n'est pas nouveau. Il survient en moyenne une fois tous les 10 ans en Mongolie. Mais depuis quelques années, il se produit bien plus souvent. Le pays vient d'ailleurs de connaître un dzud catastrophique 2 hivers de suite. Les températures sont très souvent descendues à moins 45 degrés et à l'inverse de la plupart des pays du monde, les hivers sont de plus en plus rudes en Mongolie avec des descentes d'air arctique plus fréquentes et surtout plus durables. Alors, il n'y a pas que les journées extrêmement froides qui se multiplient, les périodes sèches aussi, mais au cours de l'été cette fois-ci, les populations locales ont d'ailleurs remarqué que les hivers les plus rudes surviennent après des étés secs ayant déjà fragilisé le bétail. Mais d'où vient cette évolution climatique surprenante ? Le phénomène, il n'est en fait pas encore nécessairement bien compris. Il y a de nombreuses interrogations qui subsistent encore, mais il y aurait un lien direct avec l'affaiblissement du jet stream provoqué par le réchauffement climatique. Plus le courant de jet s'affaiblit, plus il ondule et les boucles qu'il forme piègent soit un temps sec l'été, soit un air froid en provenance des pôles l'hiver, et cela pendant de longues semaines. Alors, selon l'université de Yale, les journées de froid extrême ont été plus d'un quart de fois plus fréquentes entre 2000 et 2016 qu'entre les 20 années précédentes, donc les décennies 80-90. La neige a également augmenté de 40% depuis 1961, et cette couverture neigeuse au sol amplifie d'ailleurs le risque de froid extrême en refroidissant d'autant plus l'atmosphère, et ce phénomène ne va pas s'atténuer dans le futur, à en croire les prévisions des climatologues. Le GIEC prévoit une augmentation de 20% des dzud d'ici 2080, avec pour conséquence une mortalité très élevée du bétail de manière inévitable. Donc voilà, ce pays, la Mongolie, qui subit des vagues de froid de plus en plus intenses. Aucune transition avec l'autre article que je souhaitais vous évoquer, c'est les piercings et les ornements corporels qui ne datent pas d'hier, hein, tout comme les tatouages. En témoigne la découverte de ces petites perles faites de pierres et de verres volcaniques qui datent du néolithique. Lors de la fouille de tombes situées en Turquie à Bonkulu Tarla, des archéologues ont en effet trouvé des petits objets en pierre de forme divers qui entouraient la tête d'individus adultes morts il y a 11 000 ans. Plus spécifiquement, ces artefacts de quelques millimètres de diamètre ont été découverts au niveau des oreilles et de la bouche, ce qui a tout de suite interpellé les scientifiques. Il pourrait ainsi s'agir de piercings ayant orné les oreilles et les lèvres de ces adultes au temps de l'âge de pierre, ce qui en ferait le plus ancien témoignage de cette pratique. Sur le site, il y a eu 106 objets de ce type qui ont été retrouvés, ce qui présentait 7 formes différentes. Alors bien sûr, ces bijoux primitifs en pierre étaient bien plus épais que la fine aiguille de nos piercings actuels, ce qui suppose que leur mise en place a dû nécessiter une large perforation. Le port de ces piercings ne devait d'ailleurs certainement pas être très confortable, notamment Pour ceux situés sous la lèvre inférieure, l'étude de la mâchoire révèle d'ailleurs que les incisives inférieures des individus présentaient une usure bien particulière qui ne serait pas liée à l'alimentation, mais bien au contact répété de ces piercings en pierre. Cet ornement aurait de plus altéré la façon de manger et de parler, une modification physique volontaire qui, pour les auteurs de cette étude qui a été publiée dans la revue Antiquity, cette modification pourrait avoir été associée à un rituel de passage à l'âge adulte. Il n'y a aucun squelette d'enfant ou de jeune qui en a été retrouvé avec de tels attributs. Ça suggère que les piercings étaient utilisés pour marquer l'entrée dans la maturité. Et donc voilà, des piercings en pierre comme rite de passage à l'âge adulte qui date d'il y a 11 000 ans et qui a donc été découvert en Turquie. Enfin, dernière information avant la prochaine pause musicale, au niveau médecine, on va parler de la maladie d'Alzheimer. Il y a des médicaments comme le sildenafil qui représente une piste prometteuse contre la maladie d'Alzheimer. Et en fait, le sildenafil, c'est le principal composant des médicaments utilisés pour traiter le dysfonctionnement de l'érection. Je parle donc bien du Viagra. Et également, c'est le principal composant des médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire, comme notamment le Revascio. Alors, une nouvelle recherche interdisciplinaire menée par la clinique de Cleveland aux États-Unis présente l'intérêt d'associer des modèles informatiques à des données réelles sur les humains. Ça comprend des observations de cellules cérébrales chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et la méthode ouvre donc la voie de futurs essais cliniques qui visent à explorer l'efficacité du sildenafil, donc en clair du Viagra, chez les patients atteints de la maladie. Ça a été publié dans la revue The Journal of Alzheimer's Disease. L'analyse des données a révélé une réduction de 30 à 54% des diagnostics d'Alzheimer chez les utilisateurs du médicament par rapport à ceux qui n'en prenaient pas. Donc on est quand même sur des chiffres assez intéressants. Les chercheurs ont également montré que le sildenafil réduisait le niveau de protéines neurotoxiques qui sont associées à la maladie d'Alzheimer lorsqu'elles s'accumulent. Et donc ça, c'était assez intéressant également. Celui qui a dirigé donc cette équipe de recherche, Feijong Cheng, explique: nos résultats donnent plus de poids à la réaffectation de ce médicament existant, approuvé par l'organisme américain qui délivre la possibilité d'utiliser des médicaments. Et donc du coup, comme on est sur un médicament qui a déjà été accepté, eh bien c'est assez intéressant. Et donc du coup, on va pouvoir réaffecter ce médicament à un nouveau traitement de la maladie d'Alzheimer qui a grand besoin de nouvelles thérapies. La réaffectation des médicaments qui correspond à la réutilisation d'un médicament déjà existant, ça permet de gagner bien sûr du temps et de l'argent, et donc tout ça c'est intéressant. Nous pensons, dit-il, que nos résultats fournissent les preuves nécessaires aux essais cliniques pour examiner plus avant l'efficacité potentielle du sildenafil chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, le Viagra, en clair, pourrait combattre les protéines neurotoxiques dans le cerveau. C'est cette information. Et donc, on va être plutôt dans une phase maintenant assez avancée en termes d'essais cliniques. Voilà, c'est une succession d'articles qui n'ont aucun sens, aucun rapport entre eux, mais voilà, c'est aussi ça, Biotine, c'est une revue de presse de l'actualité scientifique, et c'est aussi un peu de musique. I'll keep holding on, I'll keep holding on, I've got this feeling, Jaja will never let me down. Keep holding on, hey, I've got this feeling, Jaja will never let me down. Now tell me, what you gonna do, what you gonna say, when frustration comes your way, and your foolish pride inside can't take it no way. Feelings inside, do you call upon the only loving Rasta one? Yes, I will sing praises to the King of Kings, who blessed my soul from deep within and captured my heart with the
this feeling. Jaja will never let me down. I'll keep holding on. I'll keep holding on. Hey, I've got this feeling. Jaja will never let me down. I'm standing firmly on solid ground. I'm praying that all people sing along. Yeah. Seek your first and every little thing will be added on to you. Knowing you'll have to pay for every little thing that you do. Hey.
People Holding On, c'était Glenn Washington sur l'antenne de Graphite, c'était très sympa. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite et le mardi matin pour la rediffusion, vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, si vous avez bien sûr récupéré les podcasts. Alors, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à dire, notamment dans une récente étude publiée dans la revue The American Journal of Physiology, des chercheurs mettent en garde les utilisateurs de cigarettes électroniques contre les risques accrus d'infection par le Covid lors du vapotage. Cette mise en garde repose sur la découverte que ces fameux liquides qu'on utilise dans les cigarettes électroniques, qui sont composés de nicotine, de propylène glycol, de glycérine végétale et d'arômes chimiques, peuvent favoriser l'infection de différentes manières. Le travail en fait des chercheurs s'est appuyé sur un modèle tissulaire en trois dimensions de l'épithélium bronchique humain, donc c'est donc au niveau des bronches qu'ils ont regardé au niveau des cellules, et ce travail s'est appuyé à partir de cellules souches des voies respiratoires. L'idée en fait c'est de pouvoir simuler l'exposition face aux aérosols des cigarettes électroniques, et les résultats montrent une augmentation significative de certains marqueurs qui sont essentiels pour l'infection par le Covid dans les tissus qui sont exposés justement aux aérosols contenant de la nicotine. L'étude souligne la complexité de l'interaction entre le vapotage et la susceptibilité au virus, ce qui est lié à la diversité des liquides qui sont utilisés et aux dispositifs de vapotage. Et l'étude appelle à une réglementation plus stricte des produits de vapotage et à la conception de nouvelles études cliniques pour approfondir la compréhension des risques qui sont associés. En fait, les les chercheurs, ils espèrent que leurs travaux vont encourager les vapoteurs à abandonner cette pratique et de dissuader ceux qui ne les utilisent pas de ne pas commencer à les utiliser. Ça souligne le lien entre le vapotage et des complications accrues en cas d'infection par la Covid-19, y compris le risque de développer une forme longue de la maladie. Donc c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans cet article, il y a deux choses. La première, c'est le recul que l'on a de plus en plus sur les cigarettes électroniques. Et dans cette émission, on a quand même assez régulièrement les articles qui nous montrent que la cigarette électronique n'est pas si bénéfique que ce que nous avait été dit au départ. Là, on voit de plus en plus. Et la deuxième information, c'est de plus en plus d'études qui sont menées sur le Covid-19. Et comme je vous l'avais dit à l'époque, c'est-à-dire qu'on a aussi le recul maintenant. On commence à avoir les retours, les premiers résultats des analyses qui ont été menées. Et donc là, on combine un petit peu les deux, bien évidemment. Mais ça montre, cet article illustre bien qu'en termes de recherche scientifique, il y a un temps en fait qu'il faut respecter. C'est aussi simple que ça. La science, elle a son temps, elle prend le temps de la science est nécessaire pour apporter les réponses et les résultats. Donc voilà, c'était assez intéressant d'avoir le lien entre Covid et cigarettes électroniques. Autre information, ça on le savait déjà, mais ça se confirme de plus en plus, et notamment c'est une étude australienne qui montre qu'une exposition à court terme aux particules fines est responsable d'une importante charge de mortalité mondiale, en particulier en Asie et en Afrique, ainsi que dans les zones urbaines du monde entier. C'est la conclusion d'une nouvelle étude donc de l'université Monash en Australie qui porte sur la mortalité et les niveaux de pollution dans plus de 13 000 villes du monde entier dans les années entre 2000 et 2019. Les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet et ça montre que l'inhalation de ces particules fines pendant quelques heures à quelques jours entraîne environ 1 million de décès prématurés dans le monde chaque année. C'est quand même énorme. Il s'agit de la première étude à examiner l'exposition à court terme à l'échelle mondiale plutôt que les effets à long terme d'une exposition persistante en général dans des endroits avec de forts taux de pollution. Or, les pics de pollution, par exemple dans la poussière et les incendies de forêt, présentent un impact considérable dans les zones urbaines plus petites. D'après l'étude, donc, l'Asie représente environ 65% de la mortalité mondiale due à l'exposition à court terme de ces particules fines. Pardon, en Australie, la fraction de décès attribuable à la pollution de l'air a augmenté, possiblement à cause des conditions météorologiques extrêmes comme les feux de brousse en 2019 et les méga incendies qui avaient entraîné près de 500 décès prématurés liés à la fumée en raison d'une exposition aiguë et persistante à des niveaux extrêmement élevés de pollution de l'air. Donc voilà, les pics de pollution tuent 1 million de personnes par an dans le monde. C'est une nouvelle étude en fait, qui confirme quelque part ce que l'on savait déjà. On a vu plusieurs éléments dans cette émission, on a déjà eu plusieurs articles qui abordaient ce sujet-là, mais voilà, on est de plus en plus conforté par ce que l'on savait déjà. Autre chose, allez, ça va nous faire un petit peu rêver, on va parler de cette entreprise de biotechnologie qui est sur le point de ramener à la vie le mammouth laineux. Tiens, ça me fait penser à Carole qui, déjà tant qu'on n'a pas eu Carole sur l'antenne de Graphite, elle reviendra bientôt, et qui nous avait parlé du mammouth laineux lors de ses premières rubriques et chroniques au sein de Biotine. Et donc, là, on avance un petit peu plus dans cette expérience, dans cet objectif. C'est ce qu'on appelle la désextinction. C'est un objectif un peu fou que poursuit une start-up américaine qui s'appelle Colossal Biosciences, celui de ressusciter une espèce éteinte, et notamment le mammouth laineux, en l'occurrence le Mammuthus primigenius. C'est un animal que personne n'a vu vivant depuis des milliers d'années, et les scientifiques viennent tout juste d'annoncer avoir franchi une étape importante vers le succès. Alors, pour comprendre, il est utile de préciser que le véritable objectif de cette start-up est de donner vie à un hybride de l'éléphant d'Asie résistant au froid, un éléphant avec des petites oreilles, une tête bombée, une fourrure garnie et un peu plus de graisse, comme un mammouth laineux, en clair. Et pour y arriver, une étape clé, c'est de réussir à reprogrammer des cellules de peau d'éléphant pour qu'elles se comportent comme les cellules embryonnaires. Et ces cellules, que les scientifiques qualifient de cellules souches, peuvent en effet se différencier à n'importe quel type de cellule d'un animal. Alors, il y a presque 20 ans déjà, les chercheurs ont montré que c'était possible avec des souris. Puis, ils ont créé des cellules souches pluripotentes induites de rhinocéros blancs, de singes, de léopards des neiges ou encore de lagopèdes. Mais de toutes les équipes qui se sont attaquées au problème de l'éléphant, il n'y a aucune qui a réussi. Et la cause, eh bien, c'est la génétique un peu complexe de cet animal. Le défi était donc de taille et c'est celui de cette entreprise, start-up colossale Biosciences, qui annonce aujourd'hui avoir relevé ce défi. Les scientifiques expliquent comment ils ont procédé. En fait, d'abord, ils ont traité les cellules d'éléphant avec un cocktail chimique qui est utilisé pour reprogrammer les cellules humaines et de souris, puis en ajoutant 4 facteurs clés de reprogrammation identifiés par une autre équipe il y a déjà quand même un certain temps, puis enfin de réduire l'expression d'un gène anticancéreux qui empêche les cellules de se dupliquer indéfiniment. Alors cette dernière opération n'a pas été nécessairement simple, mais c'est bien ainsi que les chercheurs ont obtenu 4 lignées de cellules souches qui pourraient former des cellules qui se constituent et qui vont pouvoir ensuite mener à bien à terme vers une espèce de vertébré. Alors c'est à peu près ce qu'avance l'entreprise colossale. Les travaux n'ont pas encore été évalués pour l'instant par la communauté scientifique, si bien qu'au niveau de la communauté scientifique, on reste encore assez sceptique. On est sur une start-up qui ferait de la communication, en clair, c'est ce que l'on voit un petit peu dans certaines réactions. Et en fait, les scientifiques attendent que la preuve soit faite, que ces lignées de cellules souches puissent se développer de manière stable. En fait, c'est la durée de l'expérience qui va être importante dans ce cas-là, et que du coup, elles vont pouvoir, ces cellules souches, se transformer en différents types de tissus qui vont mener à la création donc d'un animal un peu particulier. Et donc, c'est ce qu'attendent, ce que souhaitent mettre en place les chercheurs de cette start-up. Les cellules souches qu'ils ont obtenues doivent en effet leur servir à identifier et à étudier les changements génétiques nécessaires pour donner naissance à des éléphants d'Asie avec des traits de mammouth. Et le séquençage qui avait été obtenu il y a déjà pas loin d'une dizaine d'années, ça n'avait pas suffi à tout comprendre. On est quand même sur une expérience qui dure déjà depuis un certain temps. L'idée finale, c'est de fusionner un ancien ADN de mammouth avec des cellules d'éléphants d'Asie. Donc on voit un petit peu la combinaison assez particulière. Et donc le fait de pouvoir disposer de ces cellules souches capables d'évoluer en spermatozoïdes et en ovules pour fabriquer des embryons, ça éviterait de devoir prélever de telles cellules sur des éléphants vivants. Ok, très bien, on comprend. Mais ça peut aussi essayer de résoudre, nous dit cette start-up, cette espèce d'animal qui est bien sûr menacée d'extinction. C'est d'ailleurs pourquoi les chercheurs envisagent aussi de produire des utérus artificiels. On est quand même sur une expérience de haut niveau pour éviter de recourir à des mères porteuses d'éléphants d'Asie et ne pas interférer avec la reproduction naturelle de l'espèce. C'est ce qui explique donc cette start-up. En clair, on comprend que si le défi de produire des cellules souches d'éléphants était de taille, bien sûr, il pourrait bien finalement ne constituer que l'une des étapes les plus simples du programme qui est mise en place pour l'instant. Colossal avait promis de mettre le premier au monde en 2028, mais on se rend compte que d'un point de vue timing, ça va être encore un petit peu plus compliqué. Les technologies ne sont pas encore totalement fiables et certaines. On ne maîtrise encore pas tout, en clair, et les observateurs doutent que ce soit réalisable. Donc on est pour l'instant sur un effet d'annonce, on va dire, mais voilà. Mais l'expérience se poursuit encore. Il y a déjà longtemps qu'on n'avait pas parlé du mammouth laineux dans cette émission, et on essaye de voir un petit peu si on arrive à quelque chose qui va être fiable sur la durée. Donc voilà, on est sur une étape assez intéressante. On est aussi sur une étape claire de communication de cette start-up. Affaire à suivre donc, et on verra dans quelques temps si on va réussir à produire en quantité importante, ce fameux mammouth laineux. C'est ça la science aussi, finalement. C'est assez étonnant, on est bien d'accord, mais c'est aussi l'intérêt de cette émission, c'est de pouvoir s'intéresser à des articles assez intéressants. On continue à feuilleter cette revue de presse de l'actualité scientifique un peu particulière, et on continue à écouter aussi un peu de musique sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Best of Me. C'était Alicia Keys sur l'antenne de Graphite. Je crois que c'est la première fois que je vous diffuse du Alicia Keys sur Graphite. Mais bon, ça fait partie de la playlist. J'en profite. Ça nous fait plaisir, bien évidemment. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. La rediffusion les mardis matins à 10h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique dans Science et Avenir, qui est donc une revue de vulgarisation scientifique assez bien faite parce que les articles sont quand même abordables, les sujets variés, les infographies explicites, les photos sympas. Il y a plusieurs pages de petites brèves et c'est intéressant parce qu'on parle d'un petit peu de toutes sortes de sujets. Et donc du coup, dans le Science et Avenir du mois de mars, hein, parce que j'ai pas encore récupéré celui d'avril, vous avez quelques articles assez intéressants et quelques petites brèves, notamment le Japon. On va parler du Japon et cette troisième tentative qui aurait été la bonne, hein, deux échecs en 2022 et 2023, eh bien, le Japon a réussi un atterrissage en douceur sur la Lune. Lancée en septembre dernier, la sonde SLIM s'est posée en janvier dans le cratère Chiaoli, à quelques 300 km de la mer de la Tranquillité, un site d'alunissage des astronautes d'Apollo 11 en 1969. Le Japon devient ainsi la cinquième nation à réussir cet exploit après, anciennement l'URSS, les États-Unis, la Chine et plus récemment l'Inde. Mais la mission surnommée Moon Spiner restera aussi dans les annales pour une autre raison. Son objectif principal, en effet, était de tester une technique d'alunissage de très haute précision à moins de 100 mètres de l'endroit visé, contre plusieurs kilomètres pour les missions précédentes. L'engin, il a 200 kilos, il a pu se poser à 55 mètres de la cible. Pour y parvenir, un calculateur de bord ultra rapide a comparé des images de la surface de la Lune prise par les orbiteurs avec celles captées en temps réel par la sonde, les cratères lunaires servant de repères. C'est ce qu'explique Francis Rocard, le responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales. Alors cette technique de navigation autonome va être à terme très précieuse. Dans le cadre du programme Artemis de la NASA, elle pourrait permettre en effet de déposer du matériel et des capsules habitées à des endroits de plus en plus proches les uns des autres. Et des sites d'une grande importance scientifique mais exiguë deviendront par ailleurs plus accessibles. La mission japonaise ne s'est toutefois pas déroulée sans encombre. En raison d'une anomalie survenue lors des dernières dizaines de mètres de sa descente, SLIM a fini sa course la tête quasiment à l'envers. Ça, on en avait parlé dans une émission en février, je crois. Le dernier moment, l'un des moteurs devait provoquer le pivotement de l'atterrisseur de 90 degrés, mais il a tourné de 180 degrés, ce qui se retrouve au final vers le haut. La vitesse verticale était heureusement très faible. On était à peu près à 5 km/h, ce qui évite à SLIM un crash qui aurait pu être fatal. Et puis la sonde a même largué deux petits robots avant de pouvoir l'alunissage. Je vais y arriver parce qu'on ne parle pas d'atterrissage sur la Lune, c'est l'alunissage bien évidemment. Donc avant d'alunir, la sonde a largué deux petits robots qui ont pu transmettre à la Terre une photo de SLIM, les quatre fers en l'air. Ça avait l'air d'être sympa. Les panneaux solaires, comme ils étaient mal positionnés de la sonde, ils n'ont pas pu la faire fonctionner que 2 jours au lieu d'une quinzaine de jours qui était prévu, mais c'était quand même 2 jours, un délai suffisant pour que on puisse prendre des dizaines de clichés des terrains aux alentours et de fournir ainsi des précieuses informations sur la géologie de la Lune. L'équipe japonaise devrait tenter toutefois de rallumer la sonde après la nuit lunaire, nous dit-on. Autre petite brève dans Science et Avenir, c'est l'étonnante découverte faite grâce à une intelligence artificielle développée par une équipe de l'Université Columbia. Elle jette un pavé dans la mare de la communauté médico-légale qui s'accordait sur le fait que les différentes empreintes d'une même personne étaient incomparables. Et bien, contre toute attente, le modèle décrit dans la revue Sciences Advances a en effet trouvé des correspondances, car là où la méthode classique d'identification de se base sur les croisements et les extrémités des crevasses formant le motif sur le bout de nos doigts, eh bien l'intelligence artificielle a examiné la courbure et l'angle de ces lignes, et plus précisément la partie centrale du motif, de sorte que près de 77% des paires d'empreintes d'une même personne ont été identifiées comme telles. Reste à voir comment les experts médicaux légaux se saisiront de ce fait nouveau pour leur enquête. Un record pour un laboratoire souterrain, c'est le laboratoire le plus profond et le plus vaste au monde qui a été inauguré dans le sud-ouest de la Chine. Ce laboratoire offre un volume de 330 000 m3 à moins 2400 m sous les montagnes. Il servira à traquer la matière noire, c'est l'hypothétique substance qui constituerait 27% de l'univers, mais n'interagit que très peu avec la matière ordinaire. Les signaux seraient ainsi plus facilement détectables à très grande profondeur avec un minimum de bruit de fond. C'est pour ça qu'on a donc creusé ce laboratoire à près de 3 km sous la Terre. Et enfin, dernière petite information de Science et Avenir, ces chercheurs qui travaillent sur des champignons de mer, ces champignons marins qui pourraient détruire le plastique. C'est la découverte assez surprenante qui a été faite par un océanographe de l'université de Vienne en Autriche. Il s'appelle Federico Baltar. À partir de prélèvements d'échantillons d'eau de mer de l'Espagne à la Patagonie et du Groenland à l'Antarctique, eh bien, ce chercheur s'est focalisé sur ces espèces de champignons vivant en compagnie de bactéries, d'algues, de plancton à la surface des océans. Et ces champignons représenteraient 30 millions de tonnes sur les 6 milliards de l'ensemble des micro-organismes vivants dans cet écosystème. Et donc Federico Baltar et son équipe ont essayé de déterminer si ces organismes étaient capables de digérer des éléments tels que les phtalates et les organophosphates. Ce sont les plus enclins à être dégradés par des microbes, ainsi que l'avaient déjà montré pas mal d'études. Et en ligne de mire, eh bien, c'est l'énorme enjeu écologique que représente la pollution des mers par les plastiques. Le séquençage génomique des échantillons prélevés, ça a permis d'identifier 300 espèces, et parmi celles-ci, il y en a 15 qui se sont révélées capable de dégrader le plastique, des champignons de mer qui aiment le plastique. C'est ça, cette annonce. Nous avons étudié leur génome pour comprendre le potentiel métabolique qui permet de casser ces composés synthétiques. Et nous avons déterminé les gènes qui servent à exprimer ces mécanismes et comment ceux-ci fonctionnent. Les chercheurs, ils veulent non seulement savoir ce qui rend les enzymes en cause efficaces pour dégrader les plastiques, mais également si ceux-ci sont les mêmes pour toutes les espèces. Il leur faudra enfin vérifier si cette capacité de dégradation des plastiques constatée en laboratoire se déroule bien aussi dans un milieu naturel. Les premiers résultats sont annoncés pour la fin de cette année, mais voilà, c'est assez intéressant. Donc ça se fait au niveau dans un milieu du laboratoire. On va voir si au niveau dans des conditions réelles, en clair, c'est le cas. Mais des champignons de mer qui aiment le plastique, et si c'est le cas, ça pourrait quand même être assez intéressant et bénéfique, bien évidemment. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Écoutez, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique samedi prochain sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Restez fidèles, bien évidemment, à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon samedi, une très bonne semaine. Et on se retrouve samedi prochain. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.